équipe du soir. Bonsoir après cette belle soirée biathlon, cette dernière soirée sur la chaîne L'Équipe. On est ravis de vous accueillir pendant plus d'une heure ce soir. Déjà pendant une heure, pas de pub sur la chaîne L'Équipe, dans l'équipe du soir avec un gros casting. Le président Raymond Domenech est avec nous. Salut président.
Bonsoir.
Vous allez bien? On va parler dans un instant de Montpellier PSG. On va voir les buts marqués par les Parisiens. Le triplé de Kylian Mbappé. On va parler avec vous, président. Ça vous va comme programme?
C'est pas mal.
On parlera de Marseille également, qui a perdu cet après-midi face à Rennes. Il était à votre place la semaine dernière. C'est Alexis Sanchez de l'EDS. Hugo Guillemet, ça va Hugo?
Ça va impeccable.
Vous y aviez pris goût ou pas du tout à la présidence?
J'y ai pris goût, mais je suis absolument pas déçu de laisser ma place à Raymond, parce que c'est logique, c'est pas comme si j'allais laisser à Ludo. Ou...
Oui, alors, pour être très franc avec vous, s'il y avait eu Ludo en balance avec vous, voilà, j'aurais opté pour vous.
Voilà.
Exactement. Mais c'est parce que c'est une personne que je n'apprécie pas, c'est tout. Sinon, toute autre personne aurait été présidente à votre place. Je vous ai trouvé pas trop mal, mais encore un peu jeune.
Tendre.
Oui, un peu plus. Il faut repasser par en bas et après peut-être... Remontez, pourquoi pas. On va essayer de voir ça ce soir. Le PG de l'émission, Timothée Mémon, qui a brigué, qui a demandé la place de président d'ailleurs, je vous ai vu la semaine dernière.
Je postule.
Cette saison, on espère.
Je postule, mais j'ai hâte qu'on mette plutôt la Brabanson parce qu'il ressemble quand même beaucoup plus à Leandro Trossard qu'à Alexis Sanchez.
Ah, pas faux, pas faux.
Le joueur d'Arsenal.
Les triplés.
La CR07 de l'EDS, Candice est avec nous. Candice Roland, ça va Candice?
Bonsoir, ça va très bien.
Petite marinière, les samedis, tout va bien.
Bah oui, finir le week-end.
Vous avez raison.
C'est pour.
Et bientôt lundi d'ailleurs, dans 10 minutes. Hein.
C'est vrai.
Et l'homme en noir de l'EDS qui est avec nous, Greg Schneider. Noir et gris d'ailleurs ce soir.
Oui, noir et gris. Et je tenais à dire un petit mot pour la mémoire du guitariste de Marquis de Sade, Franck Darcel, qui nous a quittés. Et dont de temps en temps j'adopte le dress code gris sur noir. C'est à cause de lui que je faisais ça ici depuis 10 ans.
Grâce.
Donc c'est parce que bon voilà, il nous a quittés et je voulais dire juste un petit mot.
Et le message est passé, Greg. Tanguy Le Sévillier pour les images avec nous ce soir. Toutes les infos, les buts à l'étranger également, les infos hors foot aussi. Tanguy, on va attaquer tout de suite avec vous. Allez. On ne perd pas de temps. Les images du dernier match de la 26e journée de Ligue 1. Le PSG s'est baladé à gagner comme au tennis. 6-2 face à Montpellier.
Premier set remporté à la Bosson pour les Parisiens. Victoire 6-2 avec Vitinha, auteur du premier but de cette partie. Le joli enroulé qui trompe Dimitri Berthaud. Mbappé va inscrire un triplé. Son premier but. Mais les Montpelliérains vont revenir juste avant la pause grâce à Nordin puis Savanier sur pénalty. Mais à la reprise, eh bien, les Parisiens vont accélérer. Mbappé sur ce chef-d'œuvre. Il trompe une nouvelle fois Berthaud. Là, c'est Kanginli qui va imiter son copain du PSG. Et Mbappé, voilà le triplé, le but du 5-2. Et puis c'est Nuno Mendes qui conclura le festival parisien. On va écouter Luis Enrique qui évoque son équipe qui continue de progresser.
Qu'on est sur la même lancée que depuis un mois ou deux mois. Une lancée où l'équipe est très performante dans tous les matchs, peu importe quels joueurs vont jouer.
On
a montré qu'on est prêt, on a montré un très haut niveau. C'est un match complet, je crois, et cela va nous permettre de grandir, d'être meilleur. Et on a pu montrer une idée osée d'aller chercher le match depuis le début.
Voilà, Luis Enrique. Précision, j'apprécie Ludovic Obraniak, hein, je préfère le préciser parce que j'ai peur de recevoir des textes ensuite, toute la soirée et même la nuit de Ludo.
Il m'a appelé en me disant, mais lui, une baffe de ma part.
Non, mais vous n'allez pas faire ça, vous avez besoin de moi pendant encore une heure. Allez, on y va, c'est parti. Est-ce la preuve que le Paris Saint-Germain, cette victoire 6-2 facile à Montpellier, que le PSG progresse en Ligue 1? À cette question, vous êtes, non pas deux, mais quatre chroniqueurs à ne pas être d'accord. C'est donc un...
Super.
Bravo. Duel, exactement. Jingle.
Super.
N'hésitez pas à finir vos phrases, Raymond, ça peut m'aider.
L'anglais, je laisse.
C'est vrai. On peut dire duel aussi en français.
Oui. Voilà, un super duel.
Super duel. Une minute chacun pour convaincre, par équipe. Oui pour Hugo et Candice. Le PSG progresse. Non pour Greg et Timothée. Vous êtes par équipe. Une minute, je le disais. On attaque par l'équipe des oui et on attaque par vous, Candice.
Allez.
C'est parti.
Oui, parce que déjà, 6 buts marqués, forcément, eh bien, ça montre aussi une progression pour le Paris Saint-Germain. C'est la première fois cette saison. Des buts complètement différents. Des buts aussi qui arrivent à des moments différents du match. C'est-à-dire que c'était plutôt individuel, justement, en première période, plutôt collectif en deuxième. Donc, ça montre aussi que c'est une équipe qui a un peu pris en maturité, qui a trouvé des solutions, qui a su trouver des solutions pour avancer. Et en tout cas, je trouve que c'est une équipe du Paris Saint-Germain aussi, dans les choix de Luis Enrique, qui a pas tergiversé, qui a changé, par exemple, aussi Hernandez à la mi-temps. Donc, ça a permis cette progression parisienne.
Hugo.
Non.
Non, c'est en face.
Ah, c'est en face, pardon. Voilà.
Timothée.
Donc ce sera à moi. Non, moi, alors attention, je veux pas être pisse froid, c'est une belle victoire du Paris Saint-Germain, il y a rien à redire, mais je repense au match de début de saison où on disait il y a de la possession, il y a des bonnes choses offensivement, mais cette équipe concède beaucoup, beaucoup, beaucoup trop d'occasions. Et au soir de la sixième journée de Ligue des Champions, Luis Enrique nous a promis que pour les huitièmes de finale, ce serait beaucoup mieux. Ils se sont achetés un sursis puisqu'ils sont en quart de finale, mais le Paris Saint-Germain continue à concéder beaucoup, beaucoup d'occasions. Et puisque le Paris Saint-Germain est souvent jugé à l'aune de la Ligue des Champions, eh bien, ça fera pas le même effet quand ce sera contre le Barça ou l'Atlético.
C'est ce que je disais, Hugo.
Il concède des occasions, mais s'ils en mettent 6 à côté, voilà, je suis pas d'accord avec ce que tu viens de dire, Timothée, puisque en fait, on voit quand même une progression, notamment collective. On voit Luis Enrique qui gère parfaitement son équipe et qui fait progresser beaucoup, beaucoup de joueurs. Chaque joueur entre sur le terrain en sachant exactement ce qu'il a à faire. Chaque joueur maîtrise parfaitement son poste et même plusieurs postes. On a des joueurs comme Vitinha qui ont eu des progressions assez impressionnantes. Il utilise très bien la rotation d'effectifs aussi, donc oui, ça progresse.
Greg.
Bah, j'ai senti de bonnes connexions, mais c'est pas la première fois de la saison que je les trouve bien. Ils restaient quand même sur 3 nuls en Ligue 1, ce qui est quand même juste leur pire série. Donc se baser sur un match de soir, me semble un petit peu exagéré. D'autant que quand ils se sont fait rentrer dedans, ils ont eu des difficultés. Ils n'ont pas eu ce qui est leur gros problème, la main sur le match de manière constante. Donc on retrouve quand même un petit peu les mêmes défauts. Je suis pas d'accord pour dire que ça va bien mieux ou que c'est pas tant.
Voilà, vous avez eu une minute par équipe pour convaincre l'équipe Connect. N'hésitez pas, vous votez pour votre binôme préféré. Oui pour Hugo et Candice, non pour Timothée et Greg. Président, Raymond.
Si on regarde le résultat, si on regarde les buts, il y a Mbappé, il en met 3, ça ne change rien, donc il est toujours là. Ce qui progresse et ce qui ne progresse pas. Moi, ce que je recherche dans cette équipe-là, ce que j'essaye de voir, c'est plutôt leur solidité, leur assise défensive. Et sincèrement, la première mi-temps, c'était une catastrophe. Je veux dire, je ne vois pas où il y a eu un progrès dans leur organisation défensive. Tant qu'ils ont le ballon, tout va très bien. Ils ont des joueurs de talent au milieu, devant, ça va vite, ça joue juste. Mais dès qu'ils sont bousculés, dès qu'il y a des ballons en profondeur, et on a vu aujourd'hui Hernandez, ça a été, et d'ailleurs, il l'a sorti à la mi-temps. Je dis à ce niveau-là, je veux dire, peut-être que oui, il progresse parce qu'il voit plus vite qu'avant. Il ne l'a pas laissé sur le terrain pendant plus longtemps. Mais ça a été leur organisation défensive. Ils ont été mis en difficulté dès qu'il y avait un ballon en profondeur. Et ça, c'est depuis le début de l'année. Ça n'a pas changé. Là, il n'y a pas d'évolution, il n'y a pas de progression. Alors, je dirais plutôt non. Je n'ai pas vu une évolution particulière. Ils battent Montpellier. Bon, on ne peut pas dire que battre le 16e du championnat... Même par 6 buts avec 6 buts soit exceptionnel quand on a Mbappé à ce niveau-là.
On ne peut pas résumer à Mbappé parce que tu as une maîtrise quand même dans le jeu, la construction des actions.
Ah non, mais ça, ils l'ont toujours.
Des choses qu'on n'a pas toujours vues non plus.
Ils ont fait la demi-heure contre Nice, la première demi-heure, de la même manière. Okay. Et derrière, ils ont eu la Coupe de France et ils ont eu un quart d'heure où ils prennent l'eau. De la même manière.
Au même moment, presque.
C'est ça qui m'inquiète.
Ce qui est un peu difficile, c'est qu'en répondant à cette question, je suis pas sûr qu'on soit pas d'accord. Vous regardez avec Candice le prisme offensif et vous avez raison, le Paris Saint-Germain. Et peut-être un peu plus de maîtrise, même si encore une fois, Mbappé, on en parlera, cache peut-être parfois un peu la foi. Mais c'est mieux, il n'y a pas de doute. Et nous, on regarde peut-être un peu plus la défense en se disant, de ce côté-là, ça ne progresse pas trop. Alors oui, tu as raison, s'ils continuent à mettre 6 par match, ils gagneront beaucoup de matchs.
Mais parce qu'on le regarde à l'aune de la Coupe d'Europe.
Ouais, c'est ça.
Quand on voit...
Mais en Coupe d'Europe, ils sont passés tranquillement.
Ce qui va arriver, moi. Oui. Je te dis, il faut progresser pour arriver à être compétitif maintenant.
Et pour l'instant, c'est très bien géré, ça progresse. Et après, regarde, par exemple, je suis d'accord avec ce que tu dis défensivement. Ils ont eu un trou d'air qui a duré 10 minutes, un quart d'heure. Un gros trou d'air, il n'y a pas de problème.
En Coupe d'Europe, t'es mort.
Mais ouais. Mort, t'es éliminé. Ça veut dire quoi? On en sait rien.
T'es éliminé. C'est Guardiola qui le disait. En Coupe d'Europe, un quart d'heure d'absence, t'es mort. Regarde,
par exemple, ils ont concédé, je trouve, trop de coups de pied arrêtés, surtout quand il y a du danger avec Gigi Savagné, etc. Il y a eu beaucoup de corners pour Montpellier. Sauf que un corner contre le PSG, c'est souvent une grosse action pour le Paris Saint-Germain. Ils ont eu 3 ou 4 grosses occasions sur des corners qui étaient pourtant bien frappés, mais parce que justement, ils se sont offerts des contre-attaques et savoir jouer les contre-attaques comme ils les ont jouées, Notamment sur le but de le premier but d'Mbappé, c'est exceptionnel.
Oui. Non, mais on est d'accord. Non, mais sur les phases offensives,
oui, mais je dis toutes les phases offensives. Oui, non, mais sur les phases d'attaque placées.
Je veux dire que là, je suis d'accord. Il y a une évolution, il y a un progrès, il y a des automatismes.
Ah, voilà, il y a un progrès,
on est d'accord.
Il nous donne le point, là.
Non, sur les phases. Mais moi, je les juge en me disant, ils vont jouer le quart de finale contre le Barça. S'ils ont cette défense là contre le Barça, s'ils jouent comme ils ont joué là. La première mi-temps, ils vont en prendre 4.
Hein. Greg, je suis un peu. Le match de Rennes, qui est quand même d'une immense pauvreté offensive, il remonte à 2 semaines. Le match contre Reims, où il ne bouge plus une oreille avant que Dembélé.
C'est le week-end dernier.
Le week-end dernier. Je veux dire, on peut dire oui, ce soir, c'est. Mais ça veut dire quoi?
C'est la question.
Non, mais c'est progrès. Progrès, ce n'est pas sur un match, c'est sur une série de 5-6. Et très franchement, les chiffres ou les résultats ne disent pas ce que vous dites.
Luis Enrique avait annoncé que son équipe serait meilleure en février. L'équipe de février
il avait annoncé qu'elle serait nettement meilleure, qu'il y aurait de vrais progrès, et la promesse n'est pas tenue. Elle est peut-être un peu meilleure. Encore une fois, moi, je ne veux pas bouder le plaisir d'avoir vu 6 buts magnifiques en plus. Il n'y a pas de problème. Mais encore une fois, défensivement, si vous en prenez 2 contre Montpellier, contre le Barça, ça peut faire lourd, parce qu'ils concèdent 2 buts, mais ils concèdent beaucoup d'occasions.
Mais vous ne retenez pas la deuxième mi-temps, surtout? Parce qu'effectivement, il y a le changement. Hernandez sort et il a été à la rue face à Nordin. Mais derrière, ça tient la route et Montpellier n'a pas existé du tout. On a été surpris aussi de se dire que Montpellier n'avait aucun répondant en deuxième période et que très vite, ils ont été étouffés. Parce que du coup, derrière, toute l'équipe, après, aussi, s'est mise en action et on n'a pas du tout vu le même match. Et vous parlez beaucoup de la première période et je suis d'accord avec vous. Mais même dans le match, il y a eu une progression. En deuxième mi-temps, c'est quand même pas du tout pareil.
On parle d'une équipe de Montpellier qui a gagné 7 matchs de Ligue 1 depuis le mois d'août, quand même. Enfin, je veux dire, il ne faut pas en faire non plus. Voilà, ils ont été sortis. Non, mais oui, tu gagnes 7 matchs de Ligue 1 sur 26. Je ne pense quand même pas qu'on est face à des monstres, si je puis me permettre. Donc, il y a quand même. À un moment donné, ça va quand même rentrer dans l'équation. Tant que Montpellier a eu de l'énergie, ils les ont bougés. Ils leur ont fait mal. Après, Jordan Ferry expliquait ça après le match. C'est sûr qu'à un moment donné, quand ils ont perdu un peu de peps, ça fait mal tout de suite. Mais je suis pas loin de penser que c'est des buts presque sur des exploits personnels quand même. C'est des buts sur des pralines. Les 3 frappes en dehors de la surface, déjà, on m'explique ça comme on veut,
tu leur mènes le ballon sur le but de
Vitinha, ok.
Le Mbappé, il le met tout seul.
Le deuxième but de Mbappé, c'est quand même un contre d'école. C'est splendide ce que fait Paris Saint-Germain dans sa remontée de balle pour aller marquer le but.
Oui, mais enfin, il met une praline en lucarne de 25 mètres. Je veux dire, et quant au but qu'il met sur le contrôle orienté, c'est sur une énorme erreur défensive de Montpellier qui ne regarde pas le gars qui tient le coup franc. Ouais. Donc, je ne dis pas, c'est peut-être vrai, mais ça doit être un peu plus tangible quand même.
Mais dans cette question, Greg et vous tous autour de la table, évidemment, on pose la question, est-ce que le PSG, est-ce la preuve que le PSG ne cesse de progresser en Ligue 1? Mais là où je rejoins Raymond, je l'ai précisé dans la question, effectivement, on n'avait pas de place pour des clubs. On est obligé d'analyser cette victoire-là en projection, en prévision du match contre le Barça. Et effectivement, être ballotté comme ça pendant 20 minutes même, plus de 15 minutes, 15-20 minutes par Montpellier, une équipe qui offensivement est un peu à la rue ces derniers temps, c'est très très inquiétant. Défensivement, on avait un Donnarumma moins serein alors qu'il fut exceptionnel il y a quelques semaines de cela, une assise défensive qui n'était pas là aujourd'hui. Donc on est obligé de mettre ça également dans la balance.
Moi je suis pas inquiet parce qu'il y aura un contexte différent face au Barça, il y aura un plan de jeu qui sera aussi très différent parce que Luis Enrique, même s'il est l'entraîneur du PSG, et je trouve que c'est intelligent de sa part, mais il s'adapte énormément à ses adversaires. Il s'adapte à Montpellier, il s'adapte au Barça. Et je pense qu'il y aura un plan de jeu qui sera différent et que le PSG sera moins mis en danger. Et après, quand on parle de progression, il faut
moins mis en danger par le Barça.
Non.
Ah, selon la configuration.
Va moins s'exposer, disons, que ce qui s'est passé ce soir. Mais il faut remettre dans un contexte beaucoup plus global, puisqu'on parle de progression. Et est-ce que ce PSG-là, pour vous, semble moins en place collectivement que le PSG de février dernier avec Galtier, que celui de février d'avant avec Pochettino? Moi, je suis pas sûr. Moi, je trouve que le PSG de cette saison, la progression, peut-être qu'elle n'est pas flagrante à vos yeux, mais en tout cas, elle existe et elle est plutôt cohérente. C'est pas une saison en montagne russe. Ça me rassure.
Avant ça, les images du Barça, peut-être Tanguy qui joue ce soir. Gros match hein, contre un club qualifié également pour les quarts de finale de la Ligue des Champions et un succès net des Barcelonais.
Hein. Victoire 3-0 de cette équipe du Barça sur la pelouse de l'Atlético de Madrid avec ce super premier but de la part des Barcelonais. C'est Gundogan à l'initiative et puis le relais avec Lewandowski et la conclusion finale de João Félix.
Contrôle.
C'est magnifique. Derrière, les Barcelonais vont augmenter leur avance en tout début de deuxième période grâce à Robert Lewandowski. On va voir sa frappe, elle est parfaite. Imparable pour Jan Oblak. Elle vient quasiment toucher le poteau pour rentrer. Elle touche même. Et finalement, en fin de match, eh bien, c'est Fermín López, le jeune Barcelonais, qui va conclure le festival offensif des Barcelonais. On le rappelle, hein, c'est dans un petit peu plus de trois semaines que les Parisiens affronteront le Barça.
Ah, parce que l'attaque de Barcelone, fatalement, c'est pas l'attaque de Montpellier. Quand on voit les qualités de cette équipe-là, parce que évidemment, le Barça ne se bat pas pour le titre cette saison en Liga, mais quand on regarde l'effectif des Barcelonais, on peut prendre peur aussi quand on voit les difficultés parisiennes défensives.
Alors, attention aux qualités défensives aussi barcelonaises. Moi, je suis pas très inquiète à ce niveau-là pour le Paris Saint-Germain, parce que cette défense barcelonaise, d'un match à l'autre, elle peut aussi être quand même en dents de scie. Mais si on regarde par rapport à la Liga, on se disait, mais non, le Montpellier, on peut pas forcément se projeter après sur Barcelone. Mais quelle équipe en Ligue 1 peut nous donner un vrai repère par rapport à la Ligue des Champions?
Ah, si,
un match face à qui?
Brest.
Mais d'ici Barcelone.
L'autre tableau, ça.
Disons. On va toujours dire que c'est la Ligue 1 et qu'on peut pas se mettre en configuration Ligue des Champions. On n'arrivera pas à avoir un vrai repère avant Barcelone.
Ils ont été secoués.
Si, il y aura le Classico peut-être.
Non mais même
31.
Oui, mais tu.
Non mais dans un gros match à l'extérieur.
Je pense que jouer Lille, jouer Lens et jouer Brest, ça n'est pas jouer Montpellier ou Clermont quand même. Voilà. Après on peut. Donc après t'es pas éprouvé à cette hauteur-là.
Ça va préparer Barcelone.
On peut comparer. Donc il faut arrêter de dire qu'on se prépare à Ligue des Champions avec des matchs de championnat parce que ça n'arrive pas quand il y a la Ligue des Champions. Il y a la musique de Ligue des Champions,
autre chose,
quand il y a des internationaux étrangers en face. Et... Non, c'est complètement autre chose.
Parce que Barcelone peut jouer l'Atlético, oui, ça va préparer la Ligue des Champions. Le PSG joue n'importe quel.
Marseille, Rennes et Clermont avant le match contre le Barça.
Non, ce qui est inquiétant dans ce match du Barça, on le regardait en même temps, c'est leur maîtrise. Oui. Je dis, ils sont pratiquement pas mis en difficulté, pas mis en danger sur le terrain de l'Atlético, qui est quand même une équipe qui vient de battre l'Inter dans un match exceptionnel. C'est une équipe qui est capable d'imposer un rythme. Ils les ont étouffés, ils ont gardé le ballon, ils marquent Lewandowski en étant très moyen, fait deux passes décisives et un but. Voilà. Ce qui m'a inquiété, c'est cette maîtrise qu'ils ont eu, que je n'avais pas vu depuis très très longtemps, et dans un match de très haut niveau. Je regarde et je réponds à la question sur le PSG en regardant ce match-là. Et je me dis, et je compare, je me dis, attends, si c'est si c'est le Barça à la place de Montpellier, mais c'est pas 3 qu'ils en prennent,
mais
c'est
4,
5.
Raymond, ton regard de coach, qu'est-ce que va faire Luis Enrique face au Barça s'il pense qu'il va perdre la bataille de la maîtrise, et avec l'équipe qu'il a? Il va reculer un petit peu son bloc, ils vont faire très mal au Barça.
Oui, non, mais attends, est-ce qu'ils ont été capables jusqu'à présent de se mettre bloc bas, de défendre et de jouer en contre? Non, ils n'ont pas un match où ils ont joué comme ça. Ils veulent toujours avoir la possession. Donc là, changer totalement de philosophie et de se dire, si tu veux jouer bloc bas, il faut avoir des joueurs qui vont rester bas, il faut avoir des latéraux qui ne vont pas aller trop haut, il faut des milieux qui restent très près de la défense. Il n'a pas une équipe pour ça.
C'est un truc que dit Hugo, c'est intéressant parce que si on regarde un petit peu les faits, on peut penser ça, mais j'imagine pas Luis Enrique, à la veille donc du rendez-vous le plus important de la saison, dire, les gars, tout ce que j'essaie de vous raconter depuis 8 mois, rideau, on va, je ne le vois pas faire ça. Je n'imagine pas faire ça. Parce que quelque part, il perdrait en crédibilité auprès des joueurs.
Ils vont mettre le bus et qu'ils vont.
Non mais sans mettre le bus. C'est-à-dire que lui, sur la possession, il contrôle. Et il a des joueurs, d'ailleurs, qui sont plus forts avec le ballon que sans. Vitinha ou. Je le vois pas se dédire. Enfin, je peux pas imaginer un coach de ce niveau. Parce que
Vous pensez sincèrement que le milieu du PSG aujourd'hui peut avoir la maîtrise face à De Jong, Gundogan et
consorts? Non, et c'est le problème. C'est-à-dire que ça, je le vois pas changer ses batteries, ou bien peut-être à la marge, ou je l'imagine pas faire ça. J'ai peut-être tort, mais tu peux pas, quand t'es coach, balancer par la fenêtre 9 mois. Villas-Boas se racontait ça. Il dit, c'est pas parce qu'on joue au parc. Alors il avait pris une trempe, mais il dit, au moins je peux les regarder dans les yeux en disant, voilà, je vous ai demandé la même chose cette semaine que depuis 6 mois et que je vous demanderai dans un mois. Je vois pas un coach faire le. Enfin, j'imagine pas ça. Pas en club, peut-être en sélection ponctuellement, mais pas en club.
On parlait du coaching de Luis Enrique pendant ce match. On se posait la question sur Lucas Hernandez. Choix tactique ou pépin physique, selon l'entraîneur espagnol, c'est plutôt la deuxième solution.
Oui, c'est ça. Il a évoqué cette sortie en conférence de presse d'après-match. Je vous propose de l'écouter.
Bon, Lucas a dû sortir parce qu'il avait un petit problème physique et on ne voulait pas prendre de risques.
Bah, pas de risque.
Je penche pour une ordinite.
C'est vrai qu'il a pris un peu le bouillon sur la première période.
Ah bah, Nordin, sur son côté avec complètement
Nordin
éteint,
notamment.
En plus, si on veut protéger un joueur qu'on sort à la mi-temps, oui. Je veux dire qu'il a un petit pépin, plutôt que de dire qu'il était tellement catastrophique qu'il fallait, on prenait l'eau sur le côté, il fallait que je l'enlève.
C'est donc les si on veut.
Oui, on protège. Mais tu peux le protéger de temps en temps. Tu n'étais pas obligé de l'assassiner en public, en direct. On disait qu'il était tellement. Imagine, à la fin, il dit qu'il a été tellement mauvais que je l'ai sorti. Bah, tu le perds un peu plus. Tandis que là, tu le protèges. Il avait un petit peu mal.
Voilà. C'est un truc. Faut toujours faire ça. C'est-à-dire que les entraîneurs, évidemment, ils mentent. Le foot, tout le monde ment. Mais tu changes pas un mec à la mi-temps pour rire. Il y a toujours une raison.
Oui,
donc
raison.
Ça parle. Voilà. Quand un entraîneur fait ça, ça parle. Quand tu dois mettre des notes ou évaluer les mecs, les remplacements, en général, ça trompe pas ou pas beaucoup.
Le résultat du duel, du premier super duel. Alors, c'est l'équipe des oui. Le PSG progresse. Hugo Guillemet, Candice Roland.
Écrasant.
Pour cette victoire écrasante. 81%.
L'effet de l'éphémère, de l'immédiat.
Ouais, voilà.
C'est ça.
Votre choix n'a pas pesé, Raymond, visiblement.
Non, mais, c'est ce qu'on nous demande.
On en reparlera. On en reparlera après le match du Barça.
Bien sûr.
Ah, ben on changera d'avis.
Bienvenue à vous si vous nous rejoignez sur la chaîne d'équipe. On est dans le débat, le thème Paris Saint-Germain, le PSG qui s'est imposé ce soir, hein, cet après-midi, en fin d'après-midi, j'allais dire. Non, c'est ce soir plutôt, puisqu'on est arrivé très très tard, on est déjà lundi. Le PSG s'impose avec un triplé de Kylian Mbappé et on va le voir avec vous, Tanguy.
Oui, ça s'est bien passé pour les Parisiens ce soir du côté de la Mosson. Victoire 6-2 avec ce triplé pour Kylian Mbappé. Là, bien servi par Randal Kolo Muani. C'est le premier de ses trois buts. Derrière le chef-d'œuvre de la part de l'international français, c'est sous la barre de Dimitri Berthaud. Et puis derrière, il va encore ajuster le gardien montpelliérain sur cette magnifique ouverture. Le contrôle est parfait. Et puis derrière, il conclut de près. Trois buts pour lui. Ce qui en fait 24 en Ligue 1 cette saison pour Kylian Mbappé.
Et l'info,
juste pour ceux qui ont la chance d'aller au parc de temps en temps, regardez l'échauffement. Je veux dire, à l'échauffement, il en met comme ça.
Oui.
Il en met 3, 4 à chaque fois.
Contre Metz, déjà cette saison en Ligue 1.
Ah, il travaille et il les met, il met des frappes extraordinaires. Et il en met comme ça, il travaille sur ce geste-là. C'est pas du hasard.
Hein. Exceptionnel son but, pas content, triplé. Kylian Mbappé, et autre info, Kylian Mbappé a joué tout le match. Ce soir, ces dernières semaines, il était soit sorti, soit sur le banc au coup d'envoi. Alors, question, Mbappé doit-il jouer tous les matchs? Doit-il être titulaire jusqu'à la fin de saison en Ligue 1? Et à cette question, deux chroniqueurs ne sont pas d'accord. C'est donc un...
Duel.
Duel, bravo.
Un duel.
Oui, Kylian Mbappé doit jouer tous les matchs en Ligue 1 jusqu'à la fin de saison pour Greg Schneider. Non, il ne doit pas jouer tous les matchs, il est plutôt de la ville de Luis Enrique, si on écoute l'entraîneur espagnol ces dernières semaines, Timothée Mémon. Le duel, c'est parti. Greg, Timothée qui commence, président.
Le nom.
Timothée, c'est parti, 30 secondes.
C'est une réponse un peu provocatrice que j'ai décidé de faire. Effectivement, Mbappé fait gagner des matchs, on n'apprend rien, il n'y a rien de nouveau à ça. Mais finalement, la dépendance du Paris Saint-Germain prouve à quel point le chantier est important pour préparer l'avenir. Et puisque c'est l'argument avancé par Luis Enrique, il faut peut-être s'y mettre le plus rapidement possible en Ligue 1. Et donc, se passer de Kylian Mbappé, puisque le titre, de toute façon, tend les bras au Paris Saint-Germain. Donc c'est dans ce sens-là que j'ai dit non. Il y a un chantier, il va falloir travailler dessus.
Il vous reste moins d'une seconde. Vous pourriez faire un petit coucou à qui vous voulez tout à l'heure. Greg.
Je reste persuadé que Luis Enrique ne prépare rien du tout. On ne prépare pas une saison en février. Il se fout du monde. Il ment. Donc, une fois que j'ai dit ça, c'est très bien. Ça veut dire que quoi? C'est-à-dire qu'il mélange la politique et le sport. Et j'aime pas qu'on mélange la politique et le sport dans ces proportions. Non, alors pourquoi? Moi, je sais pas s'il doit jouer tous les matchs, mais je sais qu'on devrait lui poser la question. Et je crois qu'il répondrait qu'il veut tous les jouer. Et je pense qu'il faut aller dans son sens. Je pense qu'il faut en tout cas l'écouter. Il faut échanger avec lui. Et il faut aller dans le sens de ses envies et de ses ambitions. C'est lui qui porte la maison. C'est à lui d'en décider.
Ah, il vous restera également moins d'une seconde pour faire un petit bisou à qui vous voulez. Timothée, un coucou ou un dernier mot?
Si c'est à Mbappé tout d'un coup de dire
dernier
ce qu'il
mot,
veut faire, non
pas un livre, pas un podcast. Carton jaune dans un instant, je vais vous le donner. Greg.
C'est bien entendu aux joueurs de ce niveau de décider.
Voilà. Le petit carton pour Timothée Mémon, on respecte. Bien sûr.
Pas de problème.
Carton mérité.
Pas de problème.
Vous votez l'équipe Connect avec votre téléphone, tac tac, le QR code, n'hésitez pas, il est sur la gauche de l'écran. Président, oui ou non, Mbappé doit-il jouer les matchs de Ligue 1 jusqu'à la fin de saison? Doit-il être titulaire sur tous les matchs de Ligue 1 jusqu'à la fin de saison? Il reste 8 matchs en Ligue 1.
Oui, mais tout est lié à la Coupe d'Europe. Je veux dire, tant qu'il y a la Coupe d'Europe, c'est la gestion de l'entraîneur. Donc, il peut le faire souffler.
Et il y a la Coupe de France aussi.
Et il y a la Coupe de France. Il peut le faire souffler. Il peut faire des choix en se disant, j'en ai besoin pour les matchs importants. Donc, il y a certains matchs, on peut le mettre de côté. C'est record à lui. Le club, il s'en fout. Je veux dire, ce n'est pas leur problème. Le problème, c'est de se dire, il y a la Coupe d'Europe, il y a la Coupe de France. Il faut être performant là. Donc, il faut avoir la meilleure équipe à ce moment-là. Donc, il faut qu'il soit là. C'est tout. Et le reste du temps, s'il veut pas qu'il joue, il joue pas. C'est l'entraîneur qui décide. Mais une fois qu'il y aura... la Coupe, elle sera au bout. La Coupe de France, elle sera au bout. Il gérera. La Coupe d'Europe peut continuer aussi, mais elle peut s'arrêter vite. C'est cette gestion-là qui fera la différence.
Oui, mais par exemple, les trois matchs là, qui arrivent avant le Barça. Il y aura Marseille. On imagine que Marseille sera titulaire dans un gros match. Il y aura Rennes, il y aura Clermont. Est-ce que Rennes, Clermont, pour vous, il doit être titulaire avant ce match aller contre le Barça?
Le match de Clermont est combien de temps? 3 jours? 4 jours avant?
Oui, c'est lequel qui précède.
C'est-à-dire que celui-là n'a aucun intérêt.
4 jours avant.
Celui-là, il n'a aucun intérêt. Pour lui, voilà, ils sont champions.
Même en termes de rythme?
Non, parce qu'il aura joué une semaine avant. Ça sera un match, une semaine.
10 jours avant?
Là, le rythme, il l'a jusqu'à la fin de saison.
Parce qu'il aura Marseille.
Il aura Rennes.
L'équipe de France, quand même.
Là, c'est l'équipe de France.
Mais et une semaine après.
Entre Rennes et le Barça, il y aura 10 jours.
Non.
7 jours.
Il y aura une semaine. Il y aura une semaine. Semaine normale.
Il n'y a pas de problème. Il en joue des matchs. Souvenez-vous, quand Neymar se faisait fracasser le pied en Coupe de France, on disait, est-ce que c'était bien nécessaire d'envoyer Neymar dans ce bourbier? Bon, et bien là, à Clermont, il n'y a pas de raison qu'il se fasse fracasser à Clermont plus qu'ailleurs, ce n'est pas la question. Enfin, t'es 4 jours avant un match important, oui, tu peux t'en passer, le mettre au frais.
C'est parce que c'est 4 jours avant le match.
J'aimerais entendre Hugo et Candice. Hugo, votre avis là-dessus, il doit jouer, il doit être titulaire jusqu'à la fin de saison ou pas?
Non, je suis complètement de l'avis du président. C'est-à-dire que Luis Enrique doit décider et surtout doit gérer son effectif comme il l'entend. Et pour l'instant, on doit lui donner raison parce qu'il est qualifié dans toutes les compétitions et il a 12 points d'avance en championnat. Donc il peut se permettre de justement, on parle d'un laboratoire pour Luis Enrique. Il peut se permettre d'utiliser la Ligue 1 comme un laboratoire. Après, Mbappé, moi je suis pas convaincu qu'il ait fait un match aussi énorme contre la Real Sociedad s'il n'avait pas été frustré avant le match. Si, non, mais je peux pas dire.
Ouais, fini.
Pour moi, tu peux pas dire non plus que c'est à lui de décider.
Ah non, mais ça, c'est.
Oui,
président, est fini.
Il peut pas. Je suis désolé quand j'entends ça, ça me fait bondir. Comment ça, un joueur doit être consulté et dire non, je pense que c'est bien, il faut que je joue.
Non, mais sur la Real Sociedad.
Ah, sur la Real Sociedad, je trouve que la gestion de Luis Enrique avant la Real Sociedad est très bonne et je pense qu'il y a eu une réaction d'orgueil d'Mbappé. Sur ce match-là,
Donc, vous pensez que c'est lié, Hugo, que la mise à l'écart de Mbappé, la sortie à la mi-temps contre Monaco.
En tout cas, il y avait énormément de fraîcheur. Donc peut-être qu'il a joué ce match à 110% au lieu de le jouer à 90%.
Il a vraiment besoin d'être piqué, Mbappé, pour marquer des buts?
C'est ce qu'il vient de dire.
Mais en tout cas, en fait, Luis Enrique, il ne l'a pas fait jouer en championnat. Et on est tombé sur Luis Enrique en disant, mais il doit préparer la Real Sociedad, il ne doit pas préparer la saison prochaine. Ok, j'entends. Sauf que contre la Real Sociedad, il le met et il bat la Real Sociedad avec un excellent Mbappé. Donc, quel est le problème?
Je respecte ce que j'entends, mais dans quel monde on est si on explique qu'un mec fait son boulot correctement s'il prend des pains dans la gueule? Moi, vous croyez que si on me met la pression, Mbappé a marqué toute sa vie sans qu'on lui mette des buts, sans qu'on lui mette. Je vais finir, franchement. Donc, on peut pas avoir une vision aussi répressive du management. Il n'y a pas besoin de vexer un mec pour en sortir le meilleur. Le mec, il se fait sa propre idée, il se fait son truc. Mais toi, je n'ai aucun doute, par exemple, sur le fait qu'on n'a pas à te mettre sur la pression. Tu connais ton travail, tu sais ce que t'as à faire, tu le feras avec la même correction, le même professionnalisme. Pourquoi on va dire, Mbappé, c'est un enfant de 5 ans, si tu lui tapes sur les doigts, dis, maintenant tu vas un peu te bouger les fesses. On est en train de parler d'un adulte, du capitaine de l'équipe de France. C'est ce raisonnement-là, moi, qui me...
D'abord l'avis du coach, parce que c'est intéressant. Après vous répondrez, Hugo.
Vous devez faire parler.
Oui, mais juste avant Candice, votre avis, est-ce que vous, en tant qu'entraîneur, Raymond, avec un joueur de la classe de Mbappé, est-ce qu'il a besoin d'être piqué pour aller faire un meilleur match derrière? Est-ce que vous auriez fait exactement le même type de management que Luis Enrique, par exemple, avant le match de la Real Sociedad?
Je ne sais pas, il faut être dans les conditions, mais les faits, en tous les cas, il a été clair. Pour
vous, c'est lié.
Il l'a vexé.
Mais ça peut être
pas. Il l'a mis en situation, il lui a dit t'es pas indispensable. Regarde, c'est à Monaco, c'est chez toi, et c'est moi qui décide. Ouais. Il s'est imposé, il a dit c'est moi le patron. Maintenant, si tu veux montrer que t'es le patron, eh ben, il y a le match de Coupe d'Europe, montre-nous-le. Et il l'a montré, tant mieux.
Et
il a
gagné. Donc, qu'est-ce qui nous assure?
S'il vous plaît, Candice, d'abord.
Qu'est-ce qui nous assure, effectivement, c'est une réaction d'orgueil. Enfin, oui. Mbappé, si c'est bien un joueur qui a jamais été en deçà, qui a toujours été, qui tirait son équipe vers le haut, qui s'est toujours démené sur chaque match.
Enfin, d'accord. Mais Candice,
Oui, non, mais ça peut être dans les deux sens. On ne sait pas.
Mais quand t'as 10 points d'avance en Ligue 1, et ça sert.
Non, mais après, je dis non, il n'a pas à être forcément titulaire. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas avec Mbappé que t'as besoin d'aller le piquer. C'est ça que je veux dire, cet argument,
d'accord,
je comprends pas.
D'accord, mais alors là, je comprends ce que vous dites, et je peux être d'accord avec vous, si on juge, disons, d'un point de vue individuel, et tu parles de management répressif, mais justement, tu parles du cas Mbappé, et que de Mbappé, et si tu prends une vision globale sur ce que ça doit rapporter de positif à l'équipe, toi, tu dis, voilà, pour Mbappé, c'est vrai que c'est pas cool, il y a un management répressif, etc., et pour lui, il a pas besoin qu'on lui tape dessus pour être bon, etc.
Ni toi, ni moi, ni qui que ce soit, personne. Ni ceux qui nous regardent. Donc, voilà, c'est ça que
je suis d'accord avec toi, j'admets que pour lui, c'est pas cool, tu peux peut-être le perdre, etc., à un moment et tout, mais il sait qu'il part, et il sait aussi qu'il a 10 points d'avance en Ligue 1, Luis Enrique. Et après, sur le plan collectif, pour l'instant, tout lui donne raison. C'est-à-dire que il profite des matchs de championnat où le championnat est déjà gagné pour
faire
son
match.
Surtout, il profite de Mbappé qui est frais, qui a des jambes. Et même Didier Deschamps l'a dit d'ailleurs. Tant mieux si Lucien Riquet ne le fait pas trop jouer parce qu'il va être frais. Qui est à la fois vexé et à la fois qui est en pleine forme physique. Et il prend même pas de risque de blessure, parce que c'est vrai qu'Mbappé se blesse jamais, mais on sait jamais, tu vas, je sais pas où, à Toulouse, tu te prends un mauvais tacle, etc.
Non, mais sur la gestion, j'entends, et c'est quelque chose qu'on peut, mais c'est la causalité, moi, qui me choque.
Oui, mais
c'est juste ça, après, sur le.
Mais attends, Greg,
par rapport à ce que. Par
collectif.
Non, mais par rapport à la manière dont tu parles à quelqu'un.
Non, mais la causalité.
Pas tous en même temps, coach.
Je veux dire, la causalité, c'est nous qui la mettons.
Mais c'est pas moi.
Peut-être que lui, il en a pas mis du tout. Il a dit, moi, je le gère, je le sors à la mi-temps. C'est pas pour le vexer.
Oui.
Je veux dire, ce que je veux, c'est qu'il soit en état pour jouer contre dans sa tête. Et c'est nous qui mettons une intention. Peut-être qu'il n'avait pas cette intention de dire, je vais le piquer pour qu'il soit bon.
Ça vient de nous.
Voilà. Enfin, s'il pensait comme ça, contre Monaco, si je puis me permettre, il ne l'aurait pas mis titulaire.
Qu'est-ce que tu sous-entends ?
Merci Kylian. Il aurait peut-être mis sur le banc au coup d'envoi et attendre de voir comment le match évolue. Il le met tout de suite et il prend le risque de blessure avant le match de la Real Sociedad.
Il lui a mis un coup de massue.
En le sortant à la mi-temps, c'est parce qu'il estime qu'il n'est pas bon, pas parce qu'il veut le préserver pour la Real Sociedad, à mon sens. Timothée.
Non, mais Grégory était choqué d'une certaine manière par ce qui avait été dit. Moi, je continue à être choqué parce que je te l'entends dire et je l'ai entendu par ailleurs, qu'on puisse dire... Mbappé, il faut qu'il continue à battre des records, il faut continuer à lui demander s'il veut jouer ou s'il veut pas jouer. Mais à un moment, on a fustigé le Paris Saint-Germain de ne pas être une institution. On peut pas reprocher à un entraîneur d'avoir une vision un peu plus haute que celle d'un joueur qui veut à tout prix tout jouer et de dire, mon petit bonhomme, t'es le meilleur, il n'y a pas de problème, mais on va te mettre un peu au frais, on va préparer l'avenir, non pas tactiquement. On prépare l'avenir en concernant les joueurs qui seront là une fois que tu seras parti. Parce que c'est ça. Moi, il n'est pas en train de préparer tactiquement la saison prochaine, je suis d'accord avec toi. À un moment, le Paris Saint-Germain et son entraîneur doivent réfléchir au Paris Saint-Germain, pas à Kylian
Mbappé. D'accord, et il le fait depuis quand ça ? Il le fait depuis que Kylian a dit qu'il partait. Ouais. C'est ça en fait.
Il ne le
fait
pas depuis la saison. Ils sont championnat ou ils savent qu'ils sont champions.
Aussi, il avance. C'est tranquille depuis un moment quand même.
Non, on sait très bien que c'est le départ qui a déclenché ça.
Jusqu'alors, sur le plan éthique, on est d'accord.
Jusqu'alors, le fait de le titulariser et de lui faire jouer tous les matchs comme il le souhaitait, c'était potentiellement un argument politique pour tenter de le garder et de lui dire à partir du moment où tu dis tu t'en vas, bon, on fait avec.
Vous l'écoutez, Luis Enrique, et il nous parle de Kylian Mbappé, justement, et lui, il va en profiter.
Surprise. Moi seul le savais. Mais peu importe, son match a été exceptionnel. Il faut en profiter tant qu'il est là. Et quand il ne sera pas là, il faudra augmenter notre niveau.
On peut présumer la question, pourquoi a-t-il joué tout le match, est-ce qu'il va jouer les autres matchs, un peu notre question finalement.
Il dit je suis le patron en fait. Il dit je suis le patron. Ouais, surprise. En fait, il joue un peu.
Non, mais on doit progresser pour être augmenté dans le niveau quand il sera plus là. Il dit ça aussi.
Le résultat du duel. Ah, ben victoire de Timothée Mémon, 68% face à Greg Schneider. Voilà. Non, Mbappé ne doit pas jouer, enfin ne doit pas être titulaire jusqu'à la fin de saison.
C'est bien.
En Ligue 1, bravo Timothée, belle victoire.
C'est des débats. On sait qu'on va les perdre quand on y va.
Oui.
Le panache.
Prends ta part.
De la Ligue 1 avec vous, Tanguy. On a vu les buts du Paris Saint-Germain il y a quelques minutes. Est-ce qu'on les revoit, les buts du PSG ou pas d'ailleurs? On les revoit, oui, non. On les a vus il y a quelques minutes avec Kylian Mbappé. Mais Rennes, Marseille, on en parlera dans un instant. Avant cela, Brest. On s'intéresse à Brest qui recevait Lille.
Ouais, c'était le choc de la journée entre le 2e et le 5e du classement, avant les matchs du jour, bien évidemment. L'homme en forme des Dogs, Jonathan David, eh bien, ouvre le score. Son 15e but de la saison en Ligue 1. Pour les Lillois, égalisation de Brest sur ce mouvement initié par Kenny Lala. Martin Satriano est à l'affût, score final un but partout. Ça pouvait faire les affaires de Monaco.
Lille a vraiment baladé, Hugo, cette équipe brestoise. C'est peut-être le match où l'équipe de Brest a été le plus baladée cette saison, à domicile notamment. Mais elle arrive tout de même à accrocher un point. Pierre Lesmélou le disait après le match, on est là, mais franchement on est dans les clous.
Oui, à domicile, il y a une ambiance. Il a dit ça, il a dit aussi, je ne vais pas regarder les autres matchs, moi le foot, c'est pas trop mon truc.
Non, il lui a posé la question, s'il aurait des multis, c'est pas sympa.
Quand on le voit jouer,
il aurait pu le regarder.
C'est pas trop son truc. Mais c'était sympa cette interview. Brest, ils ont eu une belle réaction parce que leur public les a beaucoup poussés, parce qu'il lâche jamais rien, parce que la gestion aussi de l'effectif, pour le coup, c'est pas l'effectif du PSG, mais par Eric Roy, notamment ses deux attaquants, Satriano et Mounier, c'est très intelligent. Mais Lille m'a. C'est pas la première fois, mais c'est vraiment impressionnant parce que je trouve qu'ils ont un coach qui a des très bonnes idées avec des joueurs qui progressent aussi avec lui. Et j'ai bien envie de voir où sera Fonseca la saison prochaine.
Ouais, il a fait de contrat, on le rappelle.
Ouais, sur
si il vient à Marseille, ça sera.
Il y a la frappe sur la barre de.
Zegrois ?
Non, du gaucher de Brest.
Ah, de Brest, Del Castillo.
Et c'est eux qui doivent mener un 0.
Oui, c'est vrai.
Peut-être qu'on ne dit pas la même chose.
C'est pas la même chose.
C'est pas la même chose.
Ça fait immensément plaisir pour Satriano parce que alors, c'est le ratio litre de sueur versé sur un terrain, kilomètre abattu, but le plus fantasmatique. Ça fait vraiment plaisir pour lui parce qu'en plus, Eric Roy a continué à le mettre parce qu'il lui rend service, il pèse sur la défense, fait énormément d'efforts. Comme quoi, il ne faut pas regarder que les stats fusent d'un but.
Monaco-Lorient, à présent, avec une équipe monégasque qui ne gagne plus à domicile depuis début décembre dernier, 4 mois.
Hein, oui, match nul, 2 buts partout face à Lorient. C'est le même score qu'au match aller. C'est d'abord Singo qui marque contre son camp sur cette lourde frappe de Mohamed Bamba qui termine sur le poteau. Autre CSC improbable, celui des Lorientais avec la remise en retrait de Formose Mendy pour Yvon Mvogo. En deuxième période, eh bien, les Monégasques vont pousser, être récompensés par Youssouf Fofana. Mais en toute fin de rencontre, c'est Tiemoue Bakayoko, ancien Monégasque, qui va égaliser à la 94e minute. On va écouter à Hutter. Pour lui, c'est un scénario catastrophe.
Aujourd'hui, on avait une belle occasion de revenir à la deuxième place du classement. C'est une grosse déception pour nous. Nous devons davantage tuer nos matchs. C'est ce qu'on n'a pas réussi à faire aujourd'hui.
Timothée, vous étiez à Monaco à Louis II. Monaco qui n'y arrive pas, je le disais, à domicile, à 4 mois que cette équipe n'a pas gagné à la maison. Et pourtant, à l'extérieur, ça va bien. L'équipe qui arrive à s'imposer, notamment récemment. Elle peut rater le top 4 à cause de cette irrégularité ou pas pour vous?
Je ne crois pas parce qu'on s'aperçoit que d'autres équipes freinent. Enfin, ça reste très dense et... Je pense qu'ils y arriveront. Et Monaco a fait du Monaco aujourd'hui avec une certaine maîtrise, avec des occasions, mais qu'ils n'ont pas su transformer. Par contre, je voudrais dire un mot de Lorient,
oui.
Qui m'a frappé dans l'avion en revenant. Il y a cette phrase de René Char qui m'est venue, que je vais essayer de pas écorcher, qui dit « Impose ton rêve, serre ton bonheur, va vers ton risque, à te regarder, ils s'habitueront. » Et Régis Lebris, il est en train de faire quelque chose que je trouve beau d'une certaine manière, avec une équipe, avec des joueurs dont je doute que tous soient du niveau de Ligue 1. Il est en train de réussir quelque chose. Il ne va pas mourir avec ses idées. Il est en train de survivre avec ses idées parce qu'il continue à jouer au foot alors que son équipe a été vidée de ses talents. On s'en souvient au mercato de janvier de l'année dernière, puis de nouveau. Bref, Voilà, je trouve ça, il y a une certaine beauté, c'est chevaleresque qu'il fait.
Non, c'était votre citation qui est très belle, et je retire ce carton jaune. C'est tellement beau, ça m'a ému. Je le retire, je le mets là, Timothée. Vous êtes vierge de carton, bravo.
Merci à la commission de discipline.
Oui, ouais, non, après consultation du VAR, effectivement. Bravo, Timothée, c'était très beau, j'ai versé ma petite larme. Clermont, Le Havre, avec une équipe clermontoise qui s'impose à domicile.
Oui, dans le bas du classement, Clermont réalise la bonne opération du jour, victoire 2-1 contre un concurrent direct. C'est Mohamed Cham qui croise bien sa frappe sur le premier but de la partie derrière le rush d'André Ayou pour tromper le gardien clermontois. Finalement, Cham va inscrire un doublé pour les Clermontois. Le Havre va s'incliner avec l'image qu'on retiendra peut-être de cette rencontre, c'est cette altercation entre deux coéquipiers, Mohamed Bayo et Christopher Opéry.
Il y a le penalty gate aussi.
Mohamed Cham, effectivement,
voilà, qui se battait pour tirer le penalty, voilà,
les deux Clermontois, voilà. Et c'est Cham finalement qui récupère le ballon. Scène surréaliste.
Ouais, parce que ils ont pas besoin de ça, parce qu'ils ont besoin de Bayo. Il a des caractéristiques.
Et d'Opéry.
Et d'Opéry, qui est quand même l'un des meilleurs joueurs.
D'Opéry, je crois qu'il a mis plus de buts que Bayo.
Ouais, mais deux buts. Ce sera difficile de ne pas sanctionner Bayo après ce qu'on a vu. C'est quand même un geste invraisemblable. Donc ça, c'est le genre de truc qui peut faire très mal à une équipe à ce moment-là de la saison quand même.
Et puis c'était une info. L'équipe a tombé en début d'après-midi, improbable. Jocelyn Gourvennec, c'est moins improbable, se fait limoger. Retour d'Antoine Comboiré, quasiment un an après avoir été limogé de Nantes.
Et oui, un troisième entraîneur en une saison pour le FC Nantes, Jocelyn Gourvennec, n'a pas survécu à cette 10e défaite en 15 matchs. Gourvennec avait remplacé Pierre Aristouy fin novembre dernier, qui lui-même avait succédé à Antoine Comboiré l'été dernier. Comboiré va tenter de sauver Nantes jusqu'à la fin de la saison, comme il l'avait fait en 2021, en remplaçant un certain président de l'équipe du soir.
On s'arrête là-dessus, Kurt 10, un mot.
C'est bien, parce que allez-y, peut-être que je peux revenir.
Mais oui, c'est ce que j'avais dit, Raymond. Vous allez peut-être remplacer Antoine Comboiré pour les trois derniers matchs.
Blague à part, une fois qu'ils en auront fini avec Comboiré, il y a Aristouy
qui pour revenir dans le cercle, Raymond.
C'est exceptionnel. Quand on sait qu'ils sont partis, les derniers mois étaient compliqués pour se parler entre Comboiré et le président. Ouais. Il est parti un peu épuisé, vidé. Là, il est requinqué. Ça, il retourne à Nantes. Même condition, même zone. Bon, voilà.
Il doit être ravi. Au-delà de la blague, au-delà de la blague, Raymond, mais votre sentiment là, tu le retournes, Antoine Comboiré à Nantes. Franchement, on n'avait pas vu venir celle-ci. Sachant qu'Antoine Comboiré, il y a une semaine, fut un consultant éphémère sur Prime Vidéo d'un match et il nous avait annoncé à ce moment-là qu'il avait envie d'aller sur une sélection, arrêter les clubs. Bon, il revient une semaine après.
Avec Nantes, il y a beaucoup de choses qu'on ne voit pas arriver quand même. Il y a une gestion particulière, c'est comme ça. Mais à chaque fois, on peut dire ce qu'on veut, nous, par rapport aux les entraîneurs. Ils virent les entraîneurs, mais ils les payent tous. Il n'y a pas de problème, il paye, il fait son contrat, il fait un chèque. C'est-à-dire, c'est son argent. À la limite, c'est présidents qui peut dire « je fais ce que je veux, c'est mon argent
». Judicieux ou pas de faire venir Antoine Comboiré?
Enfin, je ne sais pas. Ce qui n'est pas judicieux, c'est de virer les entraîneurs au fur et à mesure. Dès qu'il y a une petite incertitude, un moment d'inquiétude, tout d'un coup, c'est la panique. Et la panique,
ça va pas. Lorient, ils étaient derniers pendant un
moment. Ben oui.
Ils étaient très en difficulté, ils ont décidé de le garder. Et c'est pas les seuls. Il y a eu Strasbourg avec Vieira. Il y a beaucoup de clubs d'ailleurs cette saison qui ont été en grande difficulté, qui ont décidé de garder leur coach et qui ont réussi à faire des séries ensuite pour ressortir de la zone rouge. Et Nantes était 11e
avec Aristouy.
Voilà, aujourd'hui, ils sont bien partis pour descendre.
Barazis, mais il reste 8 matchs.
Oui, 8 matchs, mais le calendrier.
Aristouy, j'ai pas trop saisi parce qu'il y avait des matchs qui étaient vraiment bons. Je me souviens d'un match à Strasbourg où ils sont tout en maîtrise, où il y avait une vraie force offensive. J'ai eu du mal à comprendre pourquoi ils le sortaient, titre personnel.
Alors, parce qu'ils avaient prévu de le virer avant le début de la saison, qu'ils n'ont pas pu au début.
Oui, il aurait pu être limogé après 2 journées, effectivement, et après la défaite contre Lille.
Dans ces cas-là, tu repars pas avec lui. Enfin, c'est ça qui est absurde.
Allez, le menu info et on parle des autres sports avant de parler de Marseille. Hein. Restez bien avec nous, on va parler de l'OM qui a perdu. On vous montrera les images de la défaite marseillaise à Rennes 2-0. Et on se posera cette question, est-ce que les deux défaites consécutives, celle contre Villarreal en Coupe d'Europe et celle de Rennes, ternissent les débuts de Jean-Louis Gasset? Vous allez voir, il y a également un beau duel qui se prépare. Un super duel même. On commence par le biathlon, c'était sur la chaîne L'Équipe, la fin de cette superbe saison.
Oui, comme attendu chez les femmes, c'est Lisa Vitozzi qui remporte le titre cette saison malgré sa 21e place sur la Mastart. Elle avait trop d'avance par rapport à Ingrid Tandevol. Sur la course, c'est une Française qui s'est imposée, Lou Jean Monod. On va vivre évidemment les derniers moments de la Mastart, la dernière course de la saison avec Anne-Sophie Bernadi et Alexis Boeuf. Au commentaire, on voit Lisa Vitozzi qui soulève son trophée, le gros globe de cristal de cette saison.
Vitozzi.
Attention, elle vient d'ouvrir la porte, Lou, et avec une erreur, elle peut ressortir en tête. Yanina Etic va elle aussi sur la note pénalité. Elle peut encore la gagner cette course.
Ah oui, elle a réussi à mettre les quatre dernières balles. Lou Jean Monod, attention. Lou Jean Monod, qu'il est beau ce sourire. Lou Jean Monod vient remporter la dernière course de l'hiver. Lou Jean Monod, vainqueur aujourd'hui et peut-être va décrocher le premier globe de sa carrière, celui de la Mastart.
Un premier globe dans la carrière de Lou Jean Monod. À 25 ans sur la Mastart, elle a brillé tout au long de la saison. Deuxième à Antols, troisième à Oslo. Elle a décroché le bronze également sur la Mastart des championnats du monde. C'est la toute première fois qu'elle en remporte une. Et cette victoire est synonyme de globe.
Chez les garçons, aucun suspense sur la Mastart. Démonstration de Johannes Bö, une fois n'est pas coutume, qui s'offre sa 11e victoire de l'hiver et qui conclut cette saison évidemment avec le gros globe de cristal. Émilien Jacquelin termine avec un nouveau podium, le français, troisième de cette Mastart derrière Johannes Bö et Johannes Dalleux. Pour l'équipe de France, 52 podiums cette saison, 22 victoires, c'est un record au général. Émilien Jacquelin est le premier non-norvégien. Il termine à cette saison à la 6e place.
On parle de foot et on file en Italie avec un choc, hein, au sommet l'Inter face au Napoli.
Avec un léger coup d'arrêt pour l'Inter à la maison, avec ce match nul, un but partout face à Naples. Le premier but est signé Matteo Darmian sur ce bon service d'Alessandro Bastoni. Les Napolitains vont réussir à égaliser sur un corner. Au deuxième poteau, c'est Juan Jesus qui conclut. L'Inter restait sur 10 victoires de suite en championnat. La place de leader n'est pas menacée ce soir.
Est-ce qu'il n'y a pas un petit contre-coup de la Ligue des Champions ?
Exactement.
L'Inter et l'Atlético ont quand même payé leur duel au sommet
stratosphérique de cette semaine.
La C'est Milan, l'autre club de Milan qui jouait et qui s'est imposé à l'extérieur.
Oui, victoire 3-1 sur le terrain de l'Hellas Vérone. Succès tranquille hein, avec un but d'un Français, Théo Hernandez, qui a inscrit le premier but de cette partie. Pour l'équipe de France, quelques inquiétudes hein, quand même à venir pour Didier Deschamps, puisque Mike Maignan s'est plaint de la cuisse après une parade au pied, alors qu'Olivier Giroud, vous le voyez, a été touché à la cheville gauche. Les Bleus ont rendez-vous ce lundi à Clairefontaine. Il pourrait donc y avoir des petits soucis à venir pour Didier Deschamps et cette équipe de France.
Ousmane Dembélé hein, qui était forfait également ce soir pour une otite. Également à suivre tout cela, et on en parlera évidemment demain dans les différentes émissions. Avec cette image superbe de Victor Wembanyama qui présente le maillot de l'équipe de France.
Oui, c'est lui qui a officialisé, on va dire, le nouveau maillot de l'équipe de France à venir pour l'Euro 2024. Vous voyez, c'est plutôt à l'ancienne que l'équipe de France eh bien, portera ce joli maillot dans les mois à venir.
C'est bien, il est pas
qui c'est qui va le mettre, celui-là, parce que par rapport à la taille...
Ah oui, ils ont dû en faire un. Ouais.
Il a du flow, comme disait les jeunes. On file en Allemagne avec le Bayer Leverkusen qui ne s'arrête pas, toujours invaincu, l'équipe de Xabi Alonso.
26e journée de Bundesliga et 22e victoire pour le Bayer Leverkusen. Ouais. Succès 3-2 à Fribourg avec le premier but signé Florian Wirtz. Le petit ballon qui termine à l'opposé dans la cage de Noah Atubolu. Autre joli but dans cette rencontre, celui de Patrick Schick, bien servi par Jérémy Frimpong. Toujours 10 points d'avance en Bundesliga pour Leverkusen par rapport au Bayern Munich qui est deuxième du championnat.
Énorme choc en Angleterre, en Coupe d'Angleterre, que le Xabi Alonso et Leverkusen se dirigent vers une victoire. L'ex-club de Xabi Alonso, quand il était joueur, Liverpool, qui s'est incliné en Cup à Manchester, mais dans un match de dingue.
Oui, il y avait 2-2 dans le temps réglementaire, direction la prolongation pour Manchester United et Liverpool, c'était à Old Trafford. Eh bien, les Reds vont y croire à la qualification avec ce but d'Harvey Elliott dans la prolongation, mais ça ne va évidemment pas suffire, vous en doutez, puisque derrière, c'est Marcus Rashford, bien trouvé par Scott McTominay, qui va remettre les deux équipes à égalité. Bon. On se dirige alors vers une séance de tir au but, et finalement, non, c'est Amad Diallo sur cette passe d'Alejandro Garnacho, qui va offrir la qualification pour le dernier carré de la compétition. Aux Red Devils, une autre rencontre dans cette compétition. C'est Chelsea qui était opposé à Leicester, avec le contre son camp d'Axel Disasi. On va le revoir au ralenti, là, il est pressé par un adversaire.
C'est la tête, le mieux.
On va vous montrer également deux autres jolis buts de la part des Blues.
Oui, parce que...
Ils se sont qualifiés, hein, 4-2 quand même face à cette équipe de deuxième division. Là, c'est la petite passe délicieuse de Cole Palmer pour Carney Chukwuemeka. Et puis, en fin de partie, eh bien, c'est Noni Madueke qui s'offre ce petit goal à soi. À noter que le tirage au sort est connu. Et Manchester City, eh bien, affrontera Chelsea. Et alors que Manchester United, eh bien, sera opposé à Coventry qui est 8e de D2. Les rencontres se dérouleront à Wembley.
Pas rassurant ce petit but de Disasi contre son camp.
Non, effectivement, ouais. Gros problème de communication. Mais c'est un beau but, mais pas dans le bon but.
Mais oui, ouais, oui, c'est surtout, c'est
Je pense pas que ce soit de la communication, c'est une erreur technique parce qu'il est bousculé.
Il est bousculé.
Et donc le ballon, il tape le tibia. Après, il la met, c'est vrai qu'il met beaucoup de force quand même.
Pas vraiment une passe, quoi.
Mais il est beau, ça rentre au panthéon des CSC, des défenseurs français. Il y avait eu Kedru.
Kedru était assez exceptionnel, effectivement.
En Angleterre, Kedru, c'est indépassable.
Le tennis, avec une finale entre les meilleurs joueurs de la planète, on peut le dire. Sinner a été éliminé par Alcaraz en demi. Alcaraz Medvedev au final, qui s'est imposé ?
Eh bien, c'est l'Espagnol qui était tenant du titre et qui a conservé sa couronne aux États-Unis. On va voir un très très joli point dans cette partie, c'est dans le premier set avec Alcaraz, évidemment, en haut de l'écran. Il semble battu. Vous allez voir, il va s'arracher pour remporter ce point. Victoire aujourd'hui 7-6, 6-1 de la part de l'Espagnol qui continue sa moisson.
Quel passé.
Et qui s'impose donc du côté d'Indian Wells.
Très très grande forme, Carlos Alcaraz, à quelques mois maintenant du deuxième grand chelem de la saison. Roland Garros, et on termine par le basket, semi-nuit info avant de passer à Marseille, à la Coupe de France avec cette finale de Coupe de France qui opposera donc Dijon à Strasbourg.
À Strasbourg, qui était opposé à Monaco, c'était à Trélazé, sur terrain neutre. La SIG a réussi à s'imposer contre Monaco, victoire 93-89 avec un Paul Lacombe énorme, 30 points inscrits, c'est tout simplement son record en carrière. C'est lui qui marque ses jolis 3 points. Les Strasbourgeois seront opposés à Dijon en finale. Les Bourguignons ont dominé, eux, Vichy 73-68. La finale aura lieu le 27 avril à l'Accor Arena.
Dijon Strasbourg en finale donc de cette Coupe de France. Dans un instant, Marseille, les deux défaites consécutives de l'OM en Ligue Europa cette semaine contre Villarreal sans conséquence parce que Marseille s'est qualifié, et la défaite à Rennes cet après-midi ternissent-elles les débuts de Gassé. Super duel à venir dans ODS. A tout de suite. La dernière partie de l'équipe du soir, on est ravis de vous accueillir. Si vous nous rejoignez, on va parler de Marseille qui s'est incliné tout à l'heure face à Rennes. Une défaite 2-0 des joueurs de Jean-Louis Gasset, la deuxième défaite consécutive. Après ça, il subit en Coupe d'Europe cette semaine tendue.
Septième défaite de la saison en Ligue 1 pour les hommes de Jean-Louis Gasset. C'était du côté du Roizen Park ce dimanche avec Amine Gouiri qui va trouver Martin Terrier pour le premier but de la partie. Il trouve sa cible, Martin Terrier. Puis derrière, les Rennais vont obtenir un pénalty avec cette faute de Bamo Meite sur Adrien Truffert. Benjamin Bourigeaud pour sa 30e avec le maillot Rennais. Ne tremble pas, victoire 2-0. On va écouter Jean-Louis Gasset à l'issue de cette partie. Il relativise cette défaite marseillaise.
C'est 25 jours ensemble. On a pris 9 points sur 12 en championnat. Et on est qualifié pour les quarts de finale de la Coupe d'Europe. On va faire le dernier, on dira c'est le sprint final, c'est le money time. On va essayer de le faire du mieux possible dans le même état d'esprit qu'on vient de faire cette séquence-là.
Et malgré tout, ces deux défaites consécutives, donc en Coupe d'Europe et en Ligue 1 aujourd'hui, ternissent-elles les débuts de Jean-Louis Gasset ? À cette question, 4 chroniqueurs ne sont pas d'accord, c'est donc un super...
Un duel.
Oui, c'est un super duel, jingle. Machin, vous avez raison, Raymond, 4 chroniqueurs pas d'accord. Oui, c'est deux défaites qui ternissent un peu l'image et les débuts de Gasset pour Candice et Hugo. Non, pour Greg et Timothée, l'équipe des oui qui attaque. Hugo,
on va faire comme tout à l'heure.
C'est parti.
On avait fait plutôt un bon score.
Vous voulez, 3%. Allez, on change, cette fois-ci, c'est vous qui attaquez, Hugo. C'est parti. Une minute par équipe. Hugo.
D'accord. Oui. Okay. Alors, Gasset, oui, ça ternit parce que deux défaites de suite, et en particulier une contre un adversaire direct en Ligue 1, ça ne peut pas embellir, donc ça ternit. C'est très bien ce qu'il a fait avant, mais ce qu'ils avaient fait avant, il y avait eu un vrai déclic psychologique avec des joueurs qui ont tous d'un coup surperformé parce que voilà, ils avaient envie de montrer et de redresser l'équipe, mais c'était Shakhtar, Montpellier, Nantes, Clermont. Là, le niveau s'est élevé. On attendait Gasset et l'OM de Gasset face à Rennes. Et on n'a pas vu. Et il va y avoir maintenant Paris, Lille, Benfica. Attention.
Greg.
Non, moi, je crois ce qu'il me dit. En fait, Gasset, quand il me parle de ça, on sait très bien que son effectif est mince. Moi, il y a quelque chose qui m'a marqué, c'est de laisser Harit et Aubameyang sur le banc à Villarreal. Signe qu'il est quand même en train de les gérer au millimètre, signe qu'il a peur. Il peut pas tourner sur la base arrière. Il peut pas non plus tourner tellement sur le milieu puisque Rongier est quand même sur le flanc. Donc on sent très bien qu'ils sont à l'os. En plus, la saison est longue, elle a été pénible. Je pense que psychologiquement, elle pèse. Moi, j'entends
parfaitement ses arguments et il a fait beaucoup de bien au club.
Candice.
Oui, elle s'explique cette défaite, en tout cas, c'est sûr, il y a de la fatigue, mais c'est ça qui est inquiétant, c'est que cette fatigue-là, il va falloir vite se régénérer là, pendant la trêve internationale, et derrière, on sait que le calendrier monte encore, et que justement, la Rennes, c'était le premier match un peu plus corsé que les dernières séries, et qu'en plus, vous remettez un peu dans la course au classement une équipe qui va aussi jouer l'Europe. Donc là, vous faites revenir Rennes et vous ratez une très belle occasion de revenir sur le quatuor aussi. Et puis, il y a aussi l'impact psychologique. Est-ce qu'ils vont tergiverser pendant ces deux semaines? Et c'est une dynamique tout simplement cassée pour l'OM. Tout simplement.
Timothée, pour terminer.
Hugo nous dit que 75% de victoire, c'est moins bien que 100%. Et là-dessus, je ne peux que te rejoindre. C'est irréfutable. Reste que quand même, on est tous autour de cette table conscients que gagner tous ces matchs, ça n'existe pas. Qu'il perdrait à un moment donné. Est-ce que ça ternit pour autant l'arrivée de Jean-Louis Gasset quand on voit l'état dans lequel était l'équipe après le match à Brest et la démission de Gattuso? Et quand on voit aujourd'hui l'enthousiasme qu'il y a, la qualification en Coupe d'Europe, le fait de recoller un petit peu au championnat. Là, non, on ne peut pas ternir la
réalité. Je le remets. Heureusement que j'ai enlevé tout à l'heure pour votre côté poète.
Il a carton jaune, petit côté. Une citation,
oui, oui, bah, pour l'enlever. Bah, il reste 5 minutes d'émission. Raymond, vous n'hésitez pas à revoter hein. Le QR code, pas vous, Raymond, parce que vous n'avez pas le téléphone avec vous. Mais pour ceux qui nous regardent, bien sûr. Votre avis, président, oui ou non, est-ce que cela ternit les débuts de Gasset?
Non, je crois qu'il faut sortir de ces jugements hâtifs sur le moment. Le redressement de Marseille, il est visible. Il est visible. On ne juge pas sur un match, on ne juge pas sur un moment. D'autant plus que ce match, c'est à Rennes. C'est pas un match facile. C'est contre une équipe qui joue aussi l'Europe, qui a un niveau, qui est une belle équipe, et qui perd, le match peut basculer, il frappe sur le bar, ça peut se.
Poteau Aubameyang.
Voilà. Il faut pas, arrêtons de juger sur le moment. Pour moi, non, ça ternit rien. La suite nous dira. Mais pour le moment, ce qu'on peut dire, c'est qu'il a plutôt redressé le club quand on voit où ils en étaient et où ils en sont. Et même dans ce match perdu, et je suis d'accord, c'est Timothée qui disait ça, je crois, l'envie de l'équipe. On voit, il se passe quelque chose quand même. Avant, on voyait des morts vivants qui étaient sur le terrain. On se disait, comment ils jouent, on n'en sait rien. Qu'est-ce qu'ils font, on ne sait pas.
On englobe tout de même le match de Villarreal aussi. En termes d'envie, Villarreal.
Le match de Villarreal, ils l'ont payé très cher, le match de Villarreal aujourd'hui. Mmh. Ils l'ont payé très cher. Exactement. C'était quand même un match en plus où ils ont été secoués, où ils ont eu peur, où ils sont rentrés tard. Très franchement, c'est, aujourd'hui, je ne les voyais pas avoir la moindre chance de sortir de là, sauf avoir de la réussite. Ils ont failli l'avoir. Mais franchement, il faut se mettre à la pitié pour eux. Quoi.
Justement, on va écouter Jean-Louis Gasset qui avance cet argument notamment de la fatigue aujourd'hui contre Rennes.
Je pense qu'on a donné tout ce qu'on avait. Voilà, je leur ai dit. On vient de passer 25 jours ensemble. J'ai fait un petit bilan. On aurait aimé continuer cette dynamique positive. Mais malheureusement, il nous a manqué un peu d'essence. Un peu d'oxygène.
C'est l'argument avancé par Gasset. Dans le jeu, vous les avez sentis, Candice, aujourd'hui, fatigués, les Marseillais?
Forcément, au fil des minutes, ça a été un peu plus compliqué. Peut-être pas tous pour les mêmes. Harit et Aubameyang étaient un peu mieux. Ils ont été gérés justement face à Villarreal. C'était pas les mêmes joueurs forcément ce soir contre d'autres qui enchaînent parce qu'ils n'ont pas le choix. On sait, la profondeur de banc, c'est difficile. Il y a des blessés, évidemment. Je dis pas que ça va doucher l'enthousiasme. Pas du tout amené par Gasset, mais c'est juste que forcément vous restez sur deux défaites, même si je dis, on peut dire que c'est un peu pour du beurre, la qualif était assurée, c'était évidemment le principal, et dans ce que les joueurs ont pu ressentir, ça va rester positif comme soirée quand même s'ils ont bien fait peur, ils ont fait peur à tout le monde, mais c'est juste que ce soir, forcément, là on se dit, la marche est un petit peu plus haute avec Rennes, ils arrivent en bout de course de ce marathon, ces 5 matchs en 15 jours, mais il y aura encore des périodes comme ça. Il va quand même falloir trouver des solutions. Et ce n'est pas forcément aussi que le retour de certains blessés, et encore pas sûr qu'il y en ait beaucoup après la trêve qui reviennent, mais il va falloir aussi gérer ces autres périodes avec des matchs tous les 3 jours. Et ça ternit un petit peu parce que vous avez l'espoir qui renaît en Ligue 1. Oui, c'est bien, ça va mieux.
On les voit les matchs, regardez sur le côté.
Si dans 8 journées, à la fin du championnat, mince, on est 6e, on y a cru, et bien, au final, le bilan, il est pas forcément
le calendrier est démentiel, Hugo, quand on voit Lens, Lille, Benfica en Coupe d'Europe, et Nice, Benfica de nouveau, Toulouse et Lens derrière.
Non, là, ça va être incroyable.
Puis Liverpool en fait, deux fois.
Oui. Peut-être.
Effectivement.
C'est ce qu'on disait depuis le début de l'ère Gassé, en fait. C'est que, attention, quand la pente va commencer à être un peu plus justement pointue et que ça va monter raide, là, on va voir ce que cette équipe a dans le ventre. Et en fait, j'élargis. C'est pas Gassé, évidemment, qui fait du très bon travail, et je suis d'accord. Et il a tiré vraiment le maximum de cette équipe, encore une fois, dans des matchs qui étaient pas gagnés, mais qui étaient des matchs face à des équipes plus faibles. J'ai parlé du Shakhtar, Montpellier, Nantes, Clermont.
Enfin, pas Villarreal à domicile, le 4-0.
Pas Villarreal à domicile. Villarreal à domicile, c'est là qu'on s'est dit. Après, il y a eu vraiment une très grosse performance à la finition, parce que quasiment toutes les occasions, c'est aller au fond. Mais c'était un très gros match de l'OM. Mais donc, il les a réveillés psychologiquement. Et surtout, on a vu une équipe qui jouait vraiment avec beaucoup d'énergie. Sur certaines situations, on retrouvait un petit peu l'OM de Tudor, avec du pressing partout sur le terrain et sans calcul, etc. Et forcément, ça, ils allaient le payer parce que ils ont un effectif qui est trop juste. Et là, je suis d'accord avec Gassé, parce que Gassé le pense, il le dit même à demi-mot. C'est beaucoup trop juste en termes de talent. Quand on voit Rennes, les joueurs offensifs dont dispose Rennes, c'est sans commune mesure avec ce qui se fait à Marseille. Marseille, à part Aubameyang, voilà, Ndiaye, Harit, Sarr.
Bemba.
Non mais les joueurs offensifs, ça manque de talent. Donc en fait, ils pourront pas, ça va être difficile pour eux.
Et justement pour ça, moi en fait, j'ai eu l'impression que leur saison était terminée en fait. Sur la fin du mandat Gattuso, j'ai l'impression que la saison était plus ou moins terminée. En fait, ils ratent la marche contre le Panathinaikos tout de suite, et ensuite ils étaient partis pour mourir en pente douce, pour finir 7-8 et tout. Et Gassé a réussi, je sais pas comment, à remettre le truc, à les faire exister. Il y a quelque chose qui vibre à nouveau, on les regarde, il se passe un truc de spécial. En fait, Marseille n'a pas les moyens, il a raison Hugo, n'a pas les moyens de jouer les trois premières places en l'état avec cet effectif-là et tout. Ce qu'ils peuvent faire au mieux, c'est exister. Et ils réussissent à exister. Et ils vont réexister, tant qu'ils sont en Coupe d'Europe, ils vont réexister. Ils ont cette espèce de... Et il a réussi à ressusciter ça, et quand on réfléchit bien, il me semble que c'est ce qu'ils peuvent espérer de plus. Et ils y sont.
C'est vrai, c'est intéressant ce que dit Greg. Je me souviens que j'étais le soir du Panathinaikos, j'étais au Vélodrome et j'avais essayé de me projeter Marseille en Ligue des Champions. Ça aurait été très chouette, ça aurait été très beau, mais ils n'allaient pas la gagner. Non. Marseille en Europa League, ils la gagneront difficilement, mais il y a quelque chose
qui
à
peut,
faire.
Qui peut,
et
voilà,
ça,
ouais.
Ça, ils peuvent l'offrir à leurs supporters. Et s'ils ont l'intelligence d'aller chercher une place européenne et de continuer ce parcours, Benfica, c'est quand même envisageable. Tu peux offrir une demi-finale, j'en parlais, contre Liverpool.
Après une saison pareille, c'est
pas, voilà, ouais. pour les supporters, c'est dingo, quoi.
Ouais. Oula, on termine avec du Sony Exactor. C'est classe. Demain, 13h55, rendez-vous sur la chaîne de l'équipe avec les premières conférences de presse dans cette trêve internationale de Didier Deschamps, avec les A et de Thierry Henry, avec les espoirs, les différents matchs des espoirs à vivre d'ailleurs pendant cette quinzaine. Le retour de l'EDC, l'équipe de choc, l'équipe de Greg à 18h30 et l'EDS pour terminer. Fin de l'EDS ce soir, merci à tous.
Merci
Raymond, merci Candice, Greg, Tanguy, Hugo et Timothée. Merci à vous de nous avoir suivis. On vous souhaite une bonne nuit et un bon début de semaine. Ciao.